Corps et âme, deux émissions autour de l'édition 2010 du festival Les Musiques, proposé par le GMEM. Les Musiques, festival international des musiques d'aujourd'hui, déploie sa programmation du 17 avril au 1er mai 2010. Deux axes forts pour cette édition, la matière sonore et la création musicale contemporaine en Méditerranée. Ce sont ces deux axes que nous allons explorer dans ces deux émissions spéciales Corps et âme. Corps, tout d'abord, du corps sonore au corps de bâtiment, à travers l'installation de Nicolas Maigret et Nicolas Montgermont, intitulée Corpus, une installation qui met en résonance la galerie des grands bains-douches de la plaine. Avant d'aller à la découverte de ce corpus, on écoute Raphaël De Vivo, directeur du GMEM, sur les rapports de la musique à l'architecture et l'importance accordée par les compositeurs actuels à la matière sonore. Raphaël De Vivo.
Cette préoccupation du son, je dirais que est l'apport, un des apports les plus importants de ce qu'on appelle la musique contemporaine à la musique. Après les années 50, c'est vrai que c'était pas la mélodie, c'était pas la tonalité, c'était pas forcément le rythme, l'harmonie, etc., etc. Mais c'était plutôt la préoccupation du matériau. Matériaux, c'est vrai qu'il y a eu la musique concrète, Pierre-Henri et Pierre Schaeffer, qui est musique concrète, hein, à double sens, parce que souvent son concret élaboré, et puis c'est travailler directement sur la matière sonore et non pas passer par le signe de la partition, d'écrire pour élaborer une œuvre. Donc ça, c'était quand même une donnée. Je pense que même si on fait une projection comme ça historique, je crois que la guerre de 40, avec cette masse de bombardements, a dû inconsciemment modifier l'écoute. Et la musique concrète, née en 1948, bon, je ne dirais pas que c'est la relation directe, c'est l'expérimentation, mais il doit y avoir quelque chose. Donc il est vrai que le son, c'est une permanence, une préoccupation permanente chez les compositeurs, mais comme je le disais au début, on ne partait pas forcément du matériau sonore pour élaborer la forme. Donc il est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir ce que cela produit comme œuvre musicale, donc quelque part comme émotion aussi, en partant de cette préoccupation de matière où le générateur ou les générateurs de matière sont fondamentalement différents. J'ai parlé de la voix, du piano, c'est de l'électronique, ça peut être l'orchestre complet. Et à partir de là, ça ouvre un champ quasiment illimité et qui permet de trouver d'autres modes compositionnels et voire revisiter le timbre, les harmoniques. Émergent de temps en temps des choses au lointain, on se dit tiens, ça ne vient pas de nulle part. Et donc cette préoccupation du son permet un nouveau mode compositionnel très innovant et je trouve très actuel.
Et musique concrete, ou le son du béton, sur les rapports entre la musique contemporaine et l'architecture, peut-être tout d'abord sur des liens historiques entre musique et architecture, des précurseurs en la matière, on pense immédiatement à Yanis Xenakis ou à Ligeti.
Oui, et Xenakis étant le plus emblématique, parce que Xenakis a commencé sa carrière comme ingénieur. C'est lui qui a quand même fait le calcul du béton sur l'unité d'habitation du Corbusier à Marseille, la cité radieuse. Donc il était architecte, et puis il a travaillé bien sûr avec Le Corbusier, et puis il y a eu cette rencontre intéressante entre Le Corbusier, Varèse et Xenakis, le pavillon Philippe, pour l'exposition universelle 1900 et quelques, bon, je ne me souviens plus de la date, mais c'était important, donc à Bruxelles, et là il y a eu Corbu qui avait fait l'architecture, Xenakis qui avait déterminé des parties prises de trajectoire dans cette architecture de trajectoire sonore, donc quelque part une architecture du son, et Varèse qui avait composé le poème électronique. Et ce rapport entre architecture et musique, eh ben, c'est une constante depuis l'histoire. Quand le terme envoûtement vient de voûte, je suis envoûté par cette voix, une voix qui chante dans une voûte. Monteverdi éclatait ses chœurs. Quand je dis éclater, il ne mettait pas les chœurs d'une façon frontale, dans l'église, et il jouait de l'acoustique et de la réverbération de l'église, qui était déterminée par un parti pris architectural, de voûte romane, donc, etc., etc. Donc, la transmission du signal sonore, et plus précisément de la musique, dans une architecture donnée, est toujours été une constante. Tellement que, à des époques, la notion d'envoûtement, qui est aussi lié à une dimension religieuse. Je pense que dans la conception des églises, il y avait au moment de la construction un certain nombre de paramètres qui étaient pris en compte, tenant compte de la religion, mais il y avait aussi la préoccupation de l'émission sonore, c'est comment émettre dans un espace réverbéré, comment chanter justement pour créer une fascination. Dans l'époque plus contemporaine et dans le cas de Xenakis, on retrouve des fois, même dans le vocabulaire, des similitudes, la notion de masse, pas seulement de masse orchestrale. Donc c'est évident que dans l'écriture de Xenakis, il y a beaucoup de cette notion de masse, la notion de rythme. En architecture, on l'emploie, le terme de rythme, le rythme de la façade. Donc c'est évident. Alors, parfois, des préoccupations d'ordre musical acoustique déterminent in fine, des configurations architecturales, parce que un auditorium bien réussi part avant tout de la musique, et d'autres fois, le processus inverse, c'est vrai, c'est-à-dire à un moment donné, une réalité architecturale permet des possibilités sonores et acoustiques parfois totalement destructrices, des véritables nuisances, une véritable pollution et sonore pour les gens qui habitent, ou parfois au contraire, a des répercussions éminemment positives sur le mode de fonctionnement des individus dans un espace donné. Et à partir de là, ces espaces peuvent être générateurs de création, comme c'est le cas de l'installation qui se passe dans le festival qui s'appelle Corpus.
Et dont on va reparler dans un instant avec les artistes qui mettent en œuvre cette création. Au-delà de Corpus, peut-être, comment est-ce qu'aujourd'hui les nouvelles technologies, la nouvelle manière de raisonner la mise en espace de la musique change la donne par rapport à ces précurseurs que tu viens de citer, de Monteverdi à Xenakis?
Ah oui, alors beaucoup de choses depuis très longtemps. Nous, on travaille sur l'espace et la spatialisation. Bon, la musique électroacoustique prend réellement sens dans l'espace lorsqu'elle est multi. Ce sont des logiques de multidiffusion. Donc c'est vrai que c'est un axe de travail qui augmente, et y compris dans le développement d'outils spécifiques, le fait qu'on a... On a développé un éditeur de trajectoire sonore qui s'appelle HoloEdit, dans un logiciel qui s'appelle HoloFond. Justement, c'est pour arriver au moment de la composition sonore, de pouvoir prédéterminer le positionnement d'un son dans l'espace. Son émis par des haut-parleurs, entendons-nous bien. 12, 8, 12, 24, etc. HoloFond est né, tout cela se tient, est né d'un projet pour le 40e anniversaire de l'unité de l'habitation de la cité radieuse, donc le Corbu. À l'époque, on m'avait commandé le syndic de concevoir un spectacle monumental. HoloFond, c'est aussi le fantasme qu'ont tous les musiciens d'un son trois dimensions. Dans la réalité, c'est compliqué. Dans l'espace réel, c'est compliqué. Mais derrière ce vieux rêve, il y avait aussi de dire il faut pouvoir jouer sur des grandes distances sans modifier l'élément essentiel qui est la musique. Donc, contrôler les paramètres. Donc, les nouvelles technologies permettent ça. Ça permet, bien sûr, la distribution dans l'espace des voix avec des systèmes de diffusion. Ça permet la transformation de la voix ou de l'instrument. Je parlais de voix, de l'instrument en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut écouter un instrument dans sa tessiture normale et en même temps, tout en préservant le jeu de l'interprète, de l'entendre complètement transformé. C'est ce qu'on appelle le traitement en temps réel. Et ça permet énormément de choses et donc ça ouvre des possibilités, je dirais, quasi illimitées. C'est angoissant. C'est profondément angoissant parce qu'il faut choisir, quasi limité sur la génération de sons. Et là, avec l'électronique, cela modifie aussi les frontières et c'est intéressant sur les pratiques.
Du corps de bâtiment au corps sonore, on part maintenant à la découverte de l'installation Corpus à la Galerie des Grands Madouches de Marseille. Failure est un duo composé de Nicolas Mangermont et Nicolas Maigret. Nicolas et Nicolas, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Corpus, ou le croisement du corps sonore et du corps de bâtiment, en deux mots, de quoi s'agit-il ?
Donc c'est un projet assez simple dans lequel on habite le lieu avec un ensemble de vibrations et de résonances. Et donc c'est directement le corps, les parois, les structures du lieu qui deviennent quelque part l'instrument de cette installation sonore.
Une première phase d'étude, d'analyse du lieu et de ses modes de résonance. Comment est-ce que vous avez procédé pour étudier ce lieu, cette galerie des Grands Madouches de la Plaine ?
Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on vient donc analyser un petit peu comment le lieu va réagir au son que nous on souhaite envoyer et provoquer dans le lieu. Donc, on vient comme ça, un petit peu de manière systématique, un peu quasi scientifique, venir voir comment des vibrations peuvent se propager, peuvent résonner dans l'espace. Dans l'espace et dans les matériaux. Donc on vient appliquer à l'aide de différents outils des sons directement sur les structures, les éléments qui composent le lieu, que ce soit les meubles, ici en l'occurrence c'est surtout les structures du plafond, les vitres, certaines structures type portes, fenêtres, etc.
Quand tu dis que c'est une analyse quasi scientifique, ça veut dire que tu adaptes des protocoles ou des procédures qui sont d'ordre scientifique à là un travail artistique ?
Disons qu'il y a un petit peu une méthodologie qui est d'utiliser un son simple pour venir voir si le matériau derrière va produire lui un son plus complexe et rentrer en vibration. Mais ensuite, c'est aussi un peu empirique et un peu instinctif, dans le sens où on va venir écouter ce qui est produit et garder les choses qu'on considère comme étant pertinentes ou dans ce contexte-là.
Ensuite, une phase de programmation des éléments, des événements sonores que vous avez l'intention de produire dans ce lieu. Je crois que ça, c'était une phase de travail qui s'est déroulée au GMEM. Peut-être deux mots pour en parler.
Oui, le GMEM nous a appuyés, donc on a été artistes associés pendant un an pour développer toute la partie programmation et composition autour de ce projet. Donc ça veut dire développer les systèmes de composition générative, ce qu'on appelle composition générative, c'est-à-dire que c'est des systèmes de composition qui peuvent se déployer dans le temps à l'infini selon des règles qu'on met en place, qu'on définit nous-mêmes.
Des règles strictes ou des règles qui laissent place à une certaine part d'aléa, voire d'interactivité avec les visiteurs du lieu ?
Justement, c'est des règles qui prennent en compte ces deux paramètres-là. Donc à la fois qui se déploient dans le temps de manière organique et aléatoire, assez vivante, et qui se déploient aussi en intensité et en spatialisation en fonction des personnes qui vont être dans telle ou telle zone, des activités, des choses comme ça.
Dispositif qui est donc site-spécifique, comme on dit, très dédié au lieu dans lequel il se produit. Est-ce qu'il y a des architectures qui sonnent mieux que d'autres? Je crois que vous avez expérimenté déjà ce dispositif corpus sur d'autres lieux. Alors, est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont plus sonores ou plus musicaux que d'autres?
Ben, nous, dans le contexte de ce projet, en fait, c'est un peu particulier puisqu'on cherche à faire vibrer les éléments, à révéler les sonorités qui existent dans les éléments. Donc, par exemple, ce qui va être intéressant, c'est des éléments qui sont un petit peu disjoints entre eux. Par exemple, une poutre mal scellée ou alors une fenêtre qui va avoir un joint qui va vibrer, une poignée de porte qui va être mal installée. Et donc, on ne peut pas vraiment dire à l'avance que le lieu va marcher ou non. Mais en revanche, en testant, on se rend compte effectivement que voilà, ça va être plutôt des structures qui sont très fines, des matériaux qui ne sont pas forcément des matériaux nobles. Mais justement, ça pose aussi la question du jugement de valeur sur voilà, les éléments qui composent cet espace. Au final, des choses qui sont censées être moins nobles, moins belles, moins parfaites vont être plus intéressantes dans le cadre de ce projet.
Deuxième phase, ensuite, d'exploitation et d'utilisation de cette installation sonore avec des vibreurs et puis des enceintes diffusant des infrabasses pour activer le lieu, pour le rendre vivant. C'est ça l'idée au fond, c'est transformer un lieu en un corps.
Ben, quelque part, en fait, c'est déployer un rapport du corps du visiteur au corps du lieu, ou aux spécificités du lieu dans lequel va déambuler le spectateur. Et donc, à travers les basses fréquences, à travers les vibrations, l'écoute dépasse la simple perception par l'oreille. C'est-à-dire que ça devient une perception à la fois auditive, mais aussi vibratoire et physique.
Est-ce que parfois vous faites attention à ne pas trop déployer de vibreurs ou de basses, parce que ça pourrait mettre le bâtiment en péril, littéralement?
Effectivement, en fait, c'est des choses avec lesquelles on frôle et on joue de manière assez systématique. C'est-à-dire que dans les différents cas qu'on a pu tester ou dans les différents lieux dans lesquels on a pu travailler, il y a des moments où on joue avec ce seuil qu'on ne connaît jamais vraiment bien, en fait, qui est le seuil de rupture et de fragilité, quoi, de l'espace dans lequel on travaille.
Expérimenter l'espace, c'est l'objet de cette installation, cette performance. Quand beaucoup d'artistes et d'architectes travaillent sur des espaces virtuels, vous, alors tout au contraire, vous travaillez sur le réel. Le réel, c'est la matière de votre travail.
Là, en fait, c'est donc un des pans de notre travail. Et effectivement, c'est profondément physique, matériel et réel. Mais en même temps, ça vient toucher à des aspects peut-être plus fantomatique ou plus indicible, on va dire. Ça dépasse ce qui peut être quantifié ou expliqué. C'est plutôt un rapport vraiment perceptif et personnel, quoi.
Le fait de venir travailler directement sur le lieu et de venir révéler comme ça des choses existantes, en fait, ça va donner une espèce d'impression de présence au lieu. On travaille ensuite effectivement la composition pour que ça ait des aspects, des propriétés un peu de vivant, c'est-à-dire que ça évolue de manière un peu complexe, un peu lente, mais de manière assez organique, en permanence. Et du coup, voilà, y a un petit peu l'idée de révéler la présence du lieu, et donc d'avoir cette interaction entre le visiteur et le lieu.
Cette installation s'inscrit dans le cadre d'un festival de musique contemporaine, le festival Les Musiques. Est-ce que vous avez le sentiment d'une certaine filiation entre ce que vous proposez et puis la musique concrète ?
Bah, il peut y avoir une filiation, effectivement, de ce dont on parlait tout à l'heure, dans le sens où, voilà, de ne pas avoir de jugement de valeur sur une sonorité, mais plutôt de venir créer un mode d'attention par rapport à un son. Après, sur les aspects plus de composition ou de rapport au temps, je pense qu'on n'est pas vraiment dans les mêmes choses, puisque nous, on propose plus une installation, donc un temps d'écoute qui est plus diffus et plus distendu. Voilà, mais en revanche, sur, les propriétés sonores et comment... Quelle est la perception qu'on va avoir d'un son et quelle est l'attention qu'on va y porter, il peut y avoir des choses, effectivement.
De votre point de vue, est-ce que c'est une installation ou est-ce que c'est un concert, et où se situerait la limite entre les deux?
Alors, c'est un projet qu'on présente sous les deux formes, selon les cas. Donc ça peut être... en fait, vraiment, dans ce projet, on essaie de rebondir avec le contexte dans toute sa complexité. Donc selon les lieux, les contextes, les cas, les moments de la journée et compagnie, on va décider de présenter plutôt ce projet sous forme d'un concert très court de 15 minutes ou d'une installation qui va durer 5 heures ou 2 semaines. Et c'est vraiment chaque fois lié aux spécificités du lieu et du contexte. Donc les deux formes existent et dans la forme qui est présentée au bain-douche, on définit ça plutôt comme une installation.
En fait, il y a un moment où on va décider de travailler plus sous forme de live, de concert ou de performance, quand on décide qu'imposer un temps en fait, est plus intéressant et plus pertinent. Dans le cas d'une installation, on va se dire que non, c'est le visiteur qui va prendre son propre temps pour déambuler et choisir voilà, le temps qui lui convient. Alors que dans le cadre d'un live, voilà, on va imposer un temps qui est un quart d'heure, 20 minutes, une progression précise, etc.
Comment vous observez tous les deux en tant qu'artistes, artistes-chercheurs, la manière dont aujourd'hui s'articulent de nouveaux rapports entre création musicale et architecture ? Qu'est-ce qui vous semble signifiant dans l'évolution du rapport entre architecture et musique aujourd'hui ?
Il nous semble que c'est des choses qui ont quasiment toujours existé. C'est-à-dire de choisir l'endroit où le son va se propager de manière intéressante, de la manière la plus... la plus valorisante pour le son qui est généré. Donc ça peut être le cas d'une grotte primitive, ça peut être le cas d'une cathédrale, le cas d'une salle de concert qui est faite pour tel champ de musique. Et quelque part, le rapport du lieu à ce qui est produit à l'intérieur de ce lieu est une constante, en fait, du travail musical, ou du travail sonore au sens beaucoup plus large, voire même purement vocal. Et donc, sur cette dimension, c'est vraiment dans la filiation.
Oui, moi j'ai l'impression qu'effectivement c'est des choses très anciennes aussi. J'ai le souvenir comme ça d'une histoire où il y avait en fait une grotte, effectivement, alors je crois que c'était au Paléolithique, où en fait qui avait été conçue acoustiquement, en tout cas il y avait des marques à un endroit pour que la personne qui était, disons, connectée à Dieu, donc le chaman ou je ne sais quoi, se mette à cet endroit et que sa voix soit plus impressionnante et parcourt la pièce. Et donc on voit déjà qu'il y avait ce rapport en fait entre l'architecture, ou du moins l'appropriation de l'architecture, et le sensible. Ou, voilà.
De l'espace circulant qui est la dynamique même du mouvement, qui est cette sorte de plus dont je ne fais que parler à l'instant. Mais pour moi, tout ça, c'est que du détritus. Il faut inventer à chaque fois. Quelquefois, dans toutes ces sécrétions de pulse, furieusement opposées à la prévisibilité, donc moi je ne cherche que. Les accidents.
Une dimension multimédia aussi à cette proposition corpus. En quoi est-ce que le multimédia apparaît dans cette proposition ?
Mais justement, c'est un peu une constante dans nos projets, c'est que le multimédia n'apparaît pas forcément. C'est-à-dire que c'est plus l'outil du travail que le propre de la proposition ou de ce qui est à voir. Et donc là, en l'occurrence, le multimédia est plus présent dans les modes de choix et de tests préliminaires sur les lieux, et ensuite sur la tenue de cette composition générative, que sur la forme même qui est donnée, qui peut être appréhendée par le spectateur.
Vous avez le sentiment qu'après une vingtaine d'années de présence du multimédia, comment dire, presque tapageuse dans certaines propositions, aujourd'hui on a la possibilité de l'utiliser de manière très discrète, voire même transparente.
Oui, bien sûr. En plus, c'est un champ générique qui englobe énormément de choses. Et donc, plus c'est répandu, plus ce n'est pas nécessaire de le mentionner, en fait, puisque c'est vraiment un outil comme d'autres, qui, en l'occurrence, nous sert, nous, de manière centrale pour notre travail de composition, mais qui pourrait être fait vraiment avec d'autres éléments.
Je pense qu'effectivement, tout ce qu'on appelle les arts numériques ou quoi, c'est plus en fait un outil qui est amené à s'intégrer à différents niveaux, voilà, chez chacun en fonction de sa méthodologie de travail, plutôt qu'une forme ou un champ de travail précis.
Du multimédia au réseau, et là je fais référence à une proposition qui s'appelait LAPS et que vous avez proposée en 2008. Est-ce qu'on pourrait imaginer que des bâtiments soient mis en réseau et qu'il y ait une forme d'interactivité comme ça, ou de travail en réseau sur cette proposition ?
Ben, c'était une des formes et un des aspects qu'on avait envisagé dans les premières phases de ce projet. Justement de faire véhiculer comme ça des résonances ou des vibrations sous forme d'interaction ou de l'arsène entre plusieurs espaces, et c'est un champ que la possibilité d'expérimenter ce champ reste ouverte.
Oui, c'est un des développements possibles du projet, effectivement, d'avoir une espèce de version en ligne qui permettrait de réaliser comme ça L'installation à la maison ou quoi, ou dans un lieu quand on se déplace avec son téléphone ou son ordinateur, qui sera accessible par tous en fait, et potentiellement il y aurait une mise en vibration de lieu à distance ou quoi, mais surtout utiliser cet accès au réseau pour déplacer le dispositif n'importe où en fait.
Autour de cette installation, quatre films aussi proposés, quatre films projetés, avec réalisés en collaboration avec Jérémy Gravaya, autour de quatre précédentes propositions de cette installation Corpus, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est une session pendant laquelle on a décidé de retourner le processus habituel de ce projet. C'est-à-dire que assez souvent, on se faisait inviter dans un lieu déjà défini à l'avance. Et il y a un peu moins d'un an, on a choisi de renverser ce système et de plutôt proposer de nous-mêmes les lieux qui nous semblaient intéressants ou les lieux qui nous intéressaient d'expérimenter ou de révéler. Et donc du coup, être aussi dans des systèmes beaucoup plus complexes d'un point de vue de la forme finale qu'elle allait être donnée. C'est-à-dire de pas forcément présenter ses projets dans des lieux faits pour les concerts ou faits pour les installations ou faits pour recevoir du public, mais simplement dans des lieux qui nous intéressaient d'un point de vue de l'architecture.
Ouais, donc dans ces quatre propositions-là, en fait, il y avait une chose qu'on avait envie, c'était d'avoir vraiment des propositions variées. Donc voilà, c'est à la fois la maison d'un particulier, une école avec une structure un peu gigantesque, un lieu de travail fonctionnel, un entrepôt viticole, etc. Et derrière, on voulait aussi avoir un document vidéo qui puisse rendre compte de ça. Donc à la fois des enregistrements de l'installation ou de la performance in situ, donc des sons réalisés sur place, mais aussi une trace visuelle, temporelle, associée à ça. Et donc, il y a Jérémy Gravaya qui, lui, est venu par-dessus ça, proposer à chaque fois une forme visuelle que pouvait prendre l'installation, par exemple, à Chasseline ou à l'école d'architecture de Bordeaux. Et donc, il y a eu une série de quatre films réalisés. On pense à en réaliser quelques autres aussi sur différents lieux, où à chaque fois, chaque film a une espèce de propriété un peu formelle comme ça, qui vient rendre compte de ce qui s'est passé, mais pas vraiment sous la forme documentaire, plus sous la forme de l'expérience en fait.
On a une approche assez systématique d'archivage sur les projets, et donc c'est des choses qui peuvent être vues sur le site dédié au projet, qui est corpus.artoffailure.org.
I am what I am.
Quatre lieux, le funiculaire de Pau, l'école d'archi de Bordeaux, le château Chassespline, là je vois bien ce qui a pu vous intéresser à faire résonner ce lieu, et puis la maison La Tapie, quatre lieux sur lesquels vous avez travaillé. Peut-être pour conclure, à propos de ce qu'on pourrait appeler un art de la transposition, c'est-à-dire de prendre une réflexion qui vient d'un des domaines de la création et puis de l'appliquer à un autre domaine. Est-ce que vous avez le sentiment de vous inscrire dans une démarche artistique qui serait de cet ordre, de la transposition ?
Bien sûr, de toute façon, nos centres d'intérêt viennent vraiment d'horizons très divers, donc aussi bien de l'art populaire que du domaine des beaux-arts, que de la musique, de ce qu'on appelle la musique savante ou populaire. Et donc tout ça va venir nous influencer et produire des intentions, des envies de projet. Et tous ces projets ne sont pas nécessairement sonores d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut être amené à faire un travail qui va être purement visuel ou purement informatique ou purement textuel. De cette manière, on considère, oui, être peut-être dans une forme qui peut être héréditaire d'approches comme Fluxus ou l'Intermédia dont tu parlais. Sans doute que les possibilités en fait qu'offrent les technologies qui nous sont contemporaines rendent possible en fait une nouvelle vague de propositions de création, ou souvent de manière de revisiter des fondamentaux préexistants.
Moi, si je peux revenir un petit peu sur la transposition, je pense que nous on est un petit peu dans ces aspects-là, dans le sens où on va souvent développer un projet autour d'un concept et une idée, et ensuite on va réfléchir à la forme la plus pertinente qu'on considère qu'elle peut prendre. Donc il y a comme ça une réflexion un peu en deux temps, alors là où c'est notre corpus de réflexion évidemment, mais qui va lui s'appliquer à une forme, par exemple, qui n'est pas directement en filiation avec d'où vient l'idée, ou d'où vient la réflexion, d'où vient le concept. Et voilà, et effectivement, c'est peut-être lié aux outils d'aujourd'hui, notamment le travail numérique qui permet ensuite de traduire cette donnée en tout type de données perceptives ou modalités perceptives.
Corpus, une installation sonore proposée dans le cadre du festival Les Musiques de l'édition 2010 de ce festival, proposé par Arthur Feiler, c'est-à-dire Nicolas Mangermont et Nicolas Maigret. Vernissage le 20 avril, mais l'exposition est visible jusqu'au 1er mai. C'est à la Galerie des Grands Bains-Douches de Marseille, rue de la Bibliothèque. Festival Les Musiques, festival international des musiques d'aujourd'hui, déploie sa programmation jusqu'au 1er mai. Retrouvez-en tous les rendez-vous sur le site www.gmem.org. Second volet de ce duo corps et âme, autour de la création musicale contemporaine en Méditerranée, c'est vendredi 23 avril à 15h sur les 3-8. Vous pouvez réécouter ces émissions sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org.